de tristeza, fumée de tristesse, et de tristesse, quand je me rêve.
Et la tête, et la tête. Ça manque de Dieu. Non, de Dieu.
Sinon les gens ils sont garés par là-bas, hein. 200 mètres plus loin, les autocollants bleu et rouge sur les voitures.
Ça va, c'est pas compliqué.
C'est vraiment très étonnant que la police protège les gros fachos. C'est vraiment très très étonnant. Je suis. Pourtant, je croyais que la République était garante de la laïcité.
Dans le cadre du projet de loi dit Perben 2 sur la grande criminalité, entre guillemets, discuté actuellement au Sénat, l'amendement Garot refait surface. Cet amendement, voté à l'Assemblée nationale dans la nuit du 27 au 28 novembre 2003, créait un délit d'interruption involontaire de grossesse par imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, un texte flou susceptible de donner un statut juridique de personne au fœtus et donc de remettre en cause le droit à l'IVG. Cette semaine, ce texte, avec lequel Perben a finalement pris ses distances, a été discuté au Sénat. Voici donc un résumé d'une semaine en quatre actes.
Les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, vont nous femmes esclaves et brisons nos entraves de
De 1, samedi 17 janvier, l'association anti-IVG SES Tout Petit profite sans doute de la médiatisation de l'amendement Garot pour communiquer et communier. Ils se réunissent le matin même pour prier devant l'hôpital Saint-Jacques, hôpital où est pratiquée l'IVG, face à eux, des contre-manifestants.
Ben, je suis Agnès, je suis du réseau No Passaran, un réseau anti-autoritaire et féministe, et donc anti-fasciste aussi, donc c'est aussi la raison de ma présence ici.
On est devant l'hôpital Saint-Jacques.
C'est un centre anti-IVG qui fonctionne à Nantes depuis le début de la loi. Et comme depuis le début que la loi Veil est en place, les anti-IVG SOS Tout Petit, Xavier Dor et compagnie viennent assez régulièrement ici. Là, apparemment, ils ont l'intention de renforcer leur présence sur ce lieu pour prier principalement. Pour l'instant, ils ne se sont jamais enchaînés comme ils ont pu le faire ailleurs. Ici à Nantes, mais bon, faut s'attendre à tout et rester à chaque fois vigilant. On est toujours venu faire une présence face à eux. On n'est pas toujours, c'est pas toujours équitable la façon dont on s'est traité, puisque plusieurs fois on s'est fait pousser par les flics parce que notre présence plaisait pas aux flics, alors que celle des anti-VG ne les dérangeait pas beaucoup. Et voilà, ce matin, on va voir ce qui va se passer. Ils ont dit qu'ils allaient venir à SOS Tout Petit avec Xavier Dor, mais je pense qu'il faut être présent. On a l'air d'être commencé à être pas mal nombreux avant eux. On va voir ce que ça va donner. Le but, c'est qu'ils puissent pas exprimer leur haine ici, quoi. Donc, si par exemple, ils avaient eu peur de la confrontation et qu'ils venaient pas, ce serait aussi un pari gagnant s'ils avaient su qu'on venait avant, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'ils font d'habitude, les gens des SOS Tout Petit se mettent à côté? Il y a une chapelle, là, à côté donc...
Il y a une chapelle. Ils arrivent avec crucifix, statue de la Vierge, et ils s'agenouillent, ils prient et chantent des cantiques, en général. Sans compter, c'est-à-dire, c'est qu'avant, sur la ville, ils collent des affiches, ils mettent un peu des autocollants partout, SOS Tout Petit, donc « Avorter, c'est tuer ». Avec toutes sortes de slogans. Il faut savoir que là, ils tentent tout un tas de choses par le biais de certains députés, comme on a pu le voir là au mois de novembre, de dire que l'IVG pouvait être un délit dans certains cas. Donc ils ont une force de lobby au-delà de ce genre de manifestation. Ils ont une force de lobby quand même assez importante. Et avec le gouvernement qu'on a, on a assez à craindre de leur position, quoi.
C'est-à-dire que sur Nantes, ils sont appuyés par des politiques ?
Sur Nantes, appuyé par des politiques, oui, c'est pas nouveau que des sénatrices ou en tout cas la région, les idées représentées à la région sont certainement pas toujours très éloignées de leurs idées. Ils s'affichent pas, hein. j'ai pas dit ça, mais en tout cas, c'est dans les discours, c'est pas très éloigné parfois.
Donc qu'est-ce qui risque de se passer? Ils vont être à quoi, à 30 mètres de vous à peu près?
Bon, ça dépend, c'est jamais pareil. Je sais pas trop. Pour l'instant, ils sont pas arrivés, ce qui est dans un sens pour moi plutôt bon signe. Je préfère ne pas les voir qu'avoir la confrontation. Et puis, s'ils arrivent, on ira essayer d'exprimer nous nos slogans et notre soutien aux femmes, à la liberté de choisir d'avorter ou non. La liberté des femmes, tout simplement. On ira l'exprimer de la manière pacifique, mais en tout cas en l'exprimant fortement.
La liberté des femmes est en recul en ce moment, le droit des femmes?
Ah ouais, à mon avis, c'est plus dur que c'est un retour flagrant de l'ordre moral. Moi, je pense que ce qu'on peut vivre sur plein de domaines, ne serait-ce que... Pour, par exemple, les adolescentes, quand on voit ce qu'on leur met dans la tête avec les émissions de télévision où le mec choisit dans le supermarché les femmes, ça, je pense que c'est un retour à l'ordre moral insidieux. C'est pas une loi, mais c'est bien pire ce qu'on met dans la tête des jeunes femmes.
Je suis Yolande et je... Et je suis donc à la commission femmes du Gazprom, et c'est en tant que telle qu'on est dans le collectif Encore Elle, qui est un collectif d'association.
Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation? Là, on est devant la chapelle, là, Saint-Jacques, et qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, actuellement, il y a une campagne de remise en cause qui est déguisée des droits acquis sur la question de la contraception et de l'avortement. Hein, et il y a ce groupe-là qui est connu et qui est un des groupes. Donc c'est actuellement ça a une reprise parce que au sein du gouvernement et tout, il y a des gens qui sont favorables à la répression sur ces questions-là. Et donc il y a un grignotage important.
Et qu'est-ce qui se passe là où on est précisément là? Il y a des gens dans la chapelle, c'est ça?
Oui, il y a le groupe
SOS
tout petit, voilà, qui vient prier devant régulièrement, contre le centre de CIVG.
Là, ils sont à l'intérieur de l'église.
Oui.
Ouais. Et donc, il y a des gens qui rentrent, qui prennent un petit peu des litchis sur la tête, là. Comment ça se passe en général? C'est un peu cette ambiance-là tout le temps?
On le fait pas régulièrement, mais là, c'est dans le contexte actuel où il y a la proposition de l'amendement qui est en principe retiré, mais tant que ce n'est pas passé, c'est le 20 janvier, donc tant qu'on n'est pas au 20 janvier, on ne sait pas trop...
Faites pression.
Hein. Et puis de toute façon, on sait très bien que s'il n'est pas voté là, que c'est, de la part des gens qui le proposent, ce sera reproposé sous une autre forme. Donc il y a une guerre est installée là-dessus, quoi.
Donc vous êtes très vigilant là-dessus?
Ah ben oui, je pense qu'on est obligé de l'être.
Vous demandez pourquoi vous ne priez pas dans l'église?
Mais parce qu'on ne peut pas rentrer. Il y a un groupe de gens qui portent d'ailleurs les mêmes autocollants qui nous empêchent de passer, c'est tout.
Ouais, et vous défendez quelle cause?
Vous êtes journaliste?
Oui.
La cause de la vie.
La cause de la vie, oui.
La vie est en danger?
Oui.
La vie de qui?
La vie des enfants.
La vie des enfants dans le ventre de leur mère.
La vie des vieillards sur le seuil de la mort, qui vont être les lois sur l'euthanasie, on est contre qu'elles passent.
Et vous faites partie des SOS tout petits?
Oui.
Ouais.
Et vous trouvez on aimerait pas... pouvoir rentrer.
En
c'est
fait,
possible.
On aimerait pouvoir rentrer.
Pour prier.
On peut pas parce qu'on est.
Vous pouvez rendre compte du fait qu'il y a des gens qui nous empêchent de passer, qui nous insultent.
Sur la figure,
des crottes de chien.
On blasphème notre
vous en rendrez
religion.
Compte dans votre journal ou pas?
Bah écoutez, moi je suis là pour écouter ce que vous avez à dire.
C'est quoi votre journal?
Moi c'est JTFM, c'est une radio associative sur Nantes.
Ouais. On n'a pas pu rentrer, on a reçu des œufs, on n'a rien fait, on n'a rien, nous on n'a pas de projectile.
Même par rapport aux droits de l'homme, je veux dire, la liberté de pratiquer sa religion sans
la liberté de manifester n'est pas assurée
c'est
dans ce
pareil,
pays.
Même si on prend les contre-arguments, on n'y arrivera
pas. La liberté d'avoir le choix,
Comment ?
La liberté d'avoir le choix.
Exactement, nous on n'a pas le choix d'aller là-bas. On voudrait aller là-bas. On voudrait pouvoir prier.
Le droit à l'avortement, etc.
Et le droit à la vie. Vous le connaissez, le droit à la vie ?
Le droit de vivre.
Le droit à la vie.
Le droit de vivre.
C'est pas plus important le droit à la vie.
On ne peut pas avoir tous les choix. On ne peut pas avoir le choix de tuer son voisin, par exemple. On ne peut pas avoir tous les choix dans la vie.
Il faut choisir.
Mais comme ça, quand il y a un choix possible, c'est peut-être intéressant, non ?
Oui, non, mais il y a des choix qui
de
sont possibles.
Justement, cette
mais tous les choix,
de,
mais quoi. Oui, mais il y a
après,
des choix.
À chacun
moi, j'ai pas
de
le choix de vous tuer.
Oui ou non, quoi.
Oui, mais il y a une tierce personne dans l'affaire qui est à laquelle on ne demande pas son avis.
Le choix, le choix de l'enfant à naître. C'est quoi le choix de l'enfant à naître ?
C'est le choix d'être tué.
Non, mais répondez à la question. Quel est le choix de l'enfant à naître ? Vous voulez prendre son parti ? Vous êtes journaliste, un journaliste qui prend parti.
Écoutez, moi je vous écoute pour l'instant.
Oui, quel est le choix de l'enfant à naître ? Est-ce qu'on lui laisse le choix actuellement ?
Mais vous savez bien ce qui se passait avant la loi sur l'avortement, dans quelles conditions les femmes avortaient parce que...
Oui, mais,
le choix de l'enfant.
Est-ce que c'est parce qu'il y a des crimes encore en France qu'on doit autoriser systématiquement tous les crimes ? Non, c'est pas parce qu'il y a des crimes qui malheureusement ont lieu qu'on doit les autoriser et les organiser.
Mais qu'est-ce qui se passera si justement vous revenez à une loi anti-IVG ?
On encouragera, on laissera le choix à l'enfant de vivre. Et on s'en occupera.
Ou aux femmes d'aller avorter en Angleterre ?
Non, à l'enfant de vivre.
Il y a des tas de couples qui recherchent des enfants. Qu'est-ce qui vous inquiète là ?
Bah, les conditions d'avortement telles qu'elles étaient avant 75.
Mais si on autorise l'accouchement sous X, ça permet de résoudre tous les problèmes parce que la femme laisse son enfant est adopté et il n'y a plus. Tout le monde est content, l'enfant vit, il n'est pas tué.
Est-ce qu'il est adopté ou alors est-ce qu'il va de foyer en foyer ?
Non, il est adopté, justement. Il peut être adopté.
Vous connaissez les statistiques en la matière quand même. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de gens qui demandent que de gens qui reçoivent.
Non,
vous le savez ça.
Justement, il faut que la loi change. Il faut que l'enfant puisse être adopté.
Il faut faciliter l'adoption.
Capables d'accueillir
des enfants. Oui, ils vont à l'étranger les chercher.
Connaissez la réalité avant de.
Maintenant, les parents qui veulent adopter des enfants en France sont obligés de les chercher à l'étranger. C'est quand même fou. Tous les petits Français sont tués dans l'avoir en France. Non, aller chercher à adopter un enfant en France, bon courage.
Je connais des gens qui ont été difficile.
Moi, j'ai une cousine germaine qui a dû aller jusqu'en Amérique du Sud pour adopter des enfants. Parce que voilà. Alors qu'en France, c'est vrai qu'il y a des enfants à adopter, mais les lois sont trop restrictives, probablement.
Voilà. C'est trop compliqué. Voilà, excusez-nous, on continue. On va continuer notre chapelet en union avec ceux qui sont bloqués à l'intérieur de la chapelle là-bas.
Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, au niveau de la législation en vigueur ? Il y a un retrait de la loi Veil ?
Écoutez, on arrête là, ça vous ennuie pas ?
Nous, on disait un chapelet.
Oui. Et on a discuté avec vous, ça va. Maintenant, on continue notre chapelet. Vous pouvez enregistrer. Je vous salue, Marie, si vous voulez. Allez, continue. Je vous salue.
C'est toi qui le disais. Troisième mystère joyeux, la nativité. Fruit du mystère, la pauvreté. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Jeudi, 18h, 19h, j'étais fait.
Allez, on va où, quoi ?
Allez, les gars.
Allez, avancez.
Regarde, c'est lui là, regarde. Tu prends, hein.
N'hésite pas, n'hésite pas.
C'est bon.
À chaque fois, c'est le même qui fait une matraque.
2, mardi 20 janvier, alors que l'amendement Garot sera discuté dans la soirée au Sénat parisien, une manifestation à l'initiative du mouvement français pour le planning familial est organisée devant la préfecture nantaise.
Ce soir, 18h, l'amendement Garot est en train d'être discuté au Sénat. On aura peut-être des contacts des copines qui sont parties là-bas, entre-temps. Donc nous sommes ici pour dire non au passage de l'amendement Garot qui veut instituer un délit d'interruption involontaire de grossesse. L'amendement Garot avait été voté à l'Assemblée nationale dans la nuit du 27 au 28 novembre 2003 dans le cadre du projet de loi de l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Il est voté donc par le Sénat en ce moment. Cet amendement crée un délit d'interruption involontaire de grossesse par imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, en affichant le prétexte de la protection de la femme enceinte. Ce nouvel amendement prévoit d'insérer deux articles supplémentaires, un au code pénal, l'autre au code de la santé publique. Pour nous, ce projet doit s'envisager en comprenant ce qu'il signifie pour le droit des femmes à la libre disposition de leur corps. Le MFPF et toutes les associations, les structures signataires dont je vais vous donner la liste après, ainsi que des individuels, considèrent cet amendement comme inutile, car pour sanctionner les préjudices subis par les femmes lors de l'arrêt d'une grossesse qu'elles désiraient poursuivre à terme, la loi sur l'IVG et la contraception du 4 juillet 2001 dans l'article 223-10 du Code pénal et du Code de la santé publique prévoit les sanctions pour les interruptions de grossesse sans le consentement de la femme. Par ailleurs, l'évaluation des préjudices subis par une femme, que ce soit pour arrêt de grossesse ou tout autre accident grave, doit relever plus généralement du code pénal et du code civil. Il s'agit en fait, pour M. Garot, d'un deuxième essai pour mettre en échec le droit à l'IVG et par ce même biais de donner un statut au fœtus, à l'embryon. En effet, le 27 mai 2003, le Sénat s'était déjà opposé à un amendement similaire déposé par le même monsieur Garot, cette fois-là dans le cadre de la loi sur la sécurité routière. Cet amendement sauvage au projet de loi sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité vise à sanctionner la mort d'un fœtus en caractérisant d'homicide involontaire, donc de délit, l'interruption involontaire de grossesse. Il donne ainsi au fœtus le statut juridique de personne. Or, donner à l'embryon le statut juridique de personne serait un acte juridique et politique qui pourrait demain remettre en cause le droit à l'avortement. Ainsi, toute fausse couche pourrait justifier d'une poursuite pénale et c'est la porte ouverte à la remise en question du droit des femmes à l'interruption volontaire de grossesse. mais c'est aussi donner une légitimité aux associations anti-IVG, car les opposants aux droits des femmes ont de la suite dans les idées, et cette brèche ouverte, ils l'ont tout de suite empruntée. Monsieur Xavier Dor, multirécidiviste, a été condamné un nombre incalculable de fois pour entrave à l'IVG. Il continue à sévir impunément. Après s'être attaqué au centre d'interruption volontaire de grossesse, il s'attaque avec son mouvement SOS Tout Petit pour la deuxième fois en moins d'un mois, directement au planning, en appelant un rassemblement sous prétexte de prier devant le centre de Paris, aux abords de notre siège national. Dans le contexte actuel d'attaque contre les droits des femmes, tant au niveau national qu'européen, cette nouvelle tentative de M. Garot et l'entrée en campagne électorale du Front National. Parti. Où milite M. Dor ? Je veux dire, Front National que j'ai cité, parti. Où milite M. Dor ? Ce type d'action nous paraîtrait significatif d'une stratégie organisée visant à dessiner un nouvel ordre moral. Dans ce contexte, le sous-amendement déclarant que la loi sur l'IVG n'est pas remise en question, c'est ce qu'a dit M. Perben, ce sous-amendement est un leurre. La loi sur l'IVG ne fait toujours pas l'objet d'une volonté d'application par les pouvoirs publics qui bloquent les décrets. Ce sous-amendement ne permettra pas d'empêcher par la suite la reconnaissance de la personnalité juridique au fœtus, donc la remise en cause du droit des femmes à l'interruption volontaire de grossesse. Alors que les différentes instances de la société civile et les institutions de la République ont toujours eu la sagesse de refuser ce piège, une large droite réactionnaire cherche par tous les moyens à faire reconnaître l'embryon comme personne, ce qui lui conférera des droits juridiques venant s'opposer à l'IVG et aux droits des femmes. Par le biais très détourné d'un projet de loi renforçant la lutte contre la criminalité, nous voyons donc s'afficher la menace d'une disparition programmée du droit à l'avortement. Au nom des droits fondamentaux des femmes et de toutes celles et tous ceux, individus, associations, organisations, partis rassemblés ici ce soir, nous demandons le retrait pur et simple de cet amendement dangereux et inutile. Le combat démocratique, le maintien des acquis, l'obtention d'un droit de choisir pour les femmes qui soit inaliénable nous impose la vigilance et nous resterons mobilisés pour exiger qu'aucune modification de loi ne soit faite qui pourrait donner un statut juridique à l'embryon et au fœtus, car on l'a vu pour la sécurité routière, on le revoit pour l'adaptation de la justice à la criminalité, on va le revoir, ça il n'y a aucun doute. On voudrait aussi la parution de tous les décrets d'application de la réforme 2001, et on voudrait que tous les moyens humains et financiers soient dégagés pour assurer un accès efficace à la contraception et que pour toute femme qui demande une interruption de grossesse en France, trouve une réponse en France. Les associations, alors... Les associations signataires de cette déclaration sont le Mouvement français pour le planning familial, les alternatives, l'Union départementale CGT, l'Union syndicale Jeudi solidaire, le collectif égalité et mixité de la CGT 44, l'espace Simone de Beauvoir, le Gazprom, la LCR, Attaque 44, le MRAP, encore elle, la LDH, l'Union départementale CFDT, le syndicat de la médecine générale SMG, le PS 44. Il y a des signataires individuels, Thérèse André, Jacques Barrier de la faculté de médecine de Nantes, Marie-Jo Poulon, Mathilde Hermange, Olivia Mesny, Isabelle Roche, Stéphane Tissier, Fatima Twill. Voilà, merci. Donc en ce moment, le débat se passe au Sénat. On va essayer de contacter la copine qui y est, voir si elle a des infos.
Allô ?
Oui, ah bah j'essaie.
Ouais, combien ? Ouais. 100.
Place-toi autrement, je t'entends vachement mal. Voilà, là c'est bien, vas-y. Marie-Georges Buffet, ouais. Arlette Laguillier, qui t'a d'autres ? Qui y a d'autres là-bas ? Qui, tu dis ? Marie ? Qui ? Est-ce que l'amendement est passé là ? Pas encore, il va passer dans la nuit, hein ? Il passe dans la nuit ou demain ? Il sera étudié tard dans la nuit ou demain ? Bon, alors, ça vaut peut-être le coup, donc, est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse un truc demain en ville ?
Bon, alors,
il va être étudié tard dans la nuit ou demain.
D'accord.
Attends, tu me répètes tout doucement. Vas-y, recommence.
Sur ce point-là, c'est...
Ah, ça peut aller quand même très vite. Mais alors, de toute façon, on va être mis au courant. Bon, écoute, tu m'appelles. À quelque heure qu'elle soit, tu m'appelles. Parce que moi, je le passerai par mail sur le réseau.
Acte 3, pour remettre les points sur les i et les barres sur les t, petite discussion dialogue avec Martine du planning familial et Maryse de l'espace Simone de Beauvoir.
Moi je suis Martine Leroy et je milite au planning familial.
Moi je suis Maryse Guerlet et je suis présidente de l'espace Simone de Beauvoir.
Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ce rassemblement, dans quel cadre il s'applique ?
Alors, on a fait ce rassemblement ce soir... suite au rassemblement qu'on a fait samedi matin devant le centre d'interruption volontaire de grossesse de Saint-Jacques, parce que passe en ce moment au Sénat le projet de loi de l'adaptation de la justice à la criminalité organisée. Voilà, donc c'est tout un programme, mais dans ce programme, étonnamment, on a vu débarquer l'amendement de Monsieur Garot, qui propose d'instituer un délit d'interruption involontaire de grossesse. Ce n'est pas le premier essai, puisque le premier essai, c'était en mai dernier, où il avait proposé cet amendement dans le cadre de la sécurité routière. C'est-à-dire que, sous prétexte de protéger ces femmes enceintes, il instituait donc un délit d'interruption involontaire de grossesse qui pourrait faire condamner les auteurs des accidents de la route dans les situations où les femmes enceintes victimes de ces accidents perdent la grossesse qu'elles étaient en train de mener. Donc le Sénat, à l'époque, a rejeté cet amendement. Et puis là, comme par hasard, M. Garot récidive. Alors avec l'accord de M. Perben également, qui est un des instigateurs d'ailleurs de cette stratégie, puisque c'est lui qui a proposé, qui a en tout cas suggéré à M. Garot de le faire comme ça. Donc nous, ce que l'on a tout de suite analysé, mais parce qu'on est dans un contexte politique aussi où on a toutes les raisons de l'analyser comme ça, on a analysé que cet amendement, qui n'a absolument rien à voir dans le cadre de la criminalité, était autre chose. Et l'autre chose que c'est, pour nous, c'est directement à mettre en lien avec le droit des femmes à la libre disposition de leur corps. Le droit à l'avortement a été gagné dans ce cadre-là. Et cet amendement, avec l'institution de ce délit, va ouvrir une brèche à la remise en cause du droit à l'avortement volontaire. Bon, donc... peut-être Maïs, sur le contexte général, parce qu'après dans les détails on peut réexpliquer, mais peut-être dans le contexte général.
Maïs. Oui, je crois que ce qu'il faut bien voir, parce que les gens ont cru, quand l'amendement a été d'abord voté en première lecture à l'Assemblée nationale, et il y a eu tout de suite une mobilisation. Donc, et ça fait quand même du bruit. Et résultat, le ministre de la Justice, Perben, lui, a annoncé qu'il proposerait le retrait. Du coup, tout le monde a compris que c'était fini. Or, maintenant, c'est au Sénat, c'est ce soir qu'ils sont en séance plénière, qu'ils doivent se prononcer sur cet amendement. Il faut savoir, alors, imaginons, parce que soyons optimistes, que cet amendement soit retiré. Il faut savoir que Garot a dit et clamé sur toutes les radios et télévisions que de toute façon, il remettrait son amendement à une autre occasion, hein, que ça, c'est devenu son combat, on va dire. Alors, le combat qui aussi, il faut savoir aussi dans le contexte, c'est que aussi bien les sénateurs que les députés sont inondés de lettres des associations diverses et variées qui militent en France pour la remise en cause du droit à l'avortement. D'ailleurs, ils étaient très, très, très heureux quand il y a eu l'annonce du vote donc de l'amendement Garot qui institue donc le délit, parce que c'est dans le cadre de la criminalisation, hein, le délit d'interruption involontaire de grossesse, ils se sont tous réjouis. Parce que, effectivement, ça donne la possibilité, s'il y a un délit d'interruption involontaire de grossesse, ça veut dire qu'on donne un statut au fœtus, à l'embryon et au fœtus. Et donner un statut jusqu'à maintenant, il y a toujours eu un rapport de force quand même. Bon, disons qu'il y avait cette prudence qui avait été... Hein, ils avaient eu au moins la sagesse au niveau du législateur de ne pas donner de statut au fœtus. C'est-à-dire que le fœtus et la mère sont indissociables avant la naissance. Et ça, c'est central, c'est extrêmement important parce qu'il faut savoir que ces mouvements anti-avortement, ils sont organisés internationalement. Et ils procèdent de la même façon dans tous les pays. Ils veulent obtenir un statut pour l'embryon et le fœtus, ce qui leur permet de remettre en cause le droit à l'IVG. Et ça, c'est de façon très insidieuse. Ils n'avancent pas de façon tellement ouverte, vous voyez. Ils s'infiltrent dans les institutions pour contrecarrer le travail d'éducation populaire que fait le planning. Et ils reprennent, hein, ça tu pourras expliquer, ouais. Hein, Martine.
Dans leur texte, enfin, on avait fait un panneau là ce soir pour montrer ça. Nous sommes donc le bras armé de la mort.
Voilà, ça c'est le planning.
L'axe du mal. Ça, c'est les États-Unis, hein, qui nous ont amené ça, le Vatican aussi. Mais ce qui est grave, c'est que ces gens-là n'ont aucun souci des femmes. Hein, c'est pas vraiment le problème. Et ils sont organisés. Nous, on les connaît parce que leur première égérie, qui s'appelait Claire Fontana, a mené bataille et a mené toutes les luttes pour la remise en cause de l'IVG. En fait, ces mouvements existent depuis que la loi sur l'IVG existe, hein, depuis 1975, avec différents niveaux d'intervention. Ce que disait Maryse, on les voit au niveau des institutions pouvoir politique, dans les instances de pouvoir. On les voit dans des mouvements. On les voit aussi... comme elle disait, infiltrés dans des structures et des associations qui font de l'information. Alors aujourd'hui, ils ont aussi été à l'initiative d'un comité pour l'abolition de la partie de l'impôt qui servait à financer l'IVG. Puisque avant la réforme 2001, l'interruption volontaire de grossesse était financée par un budget d'État voté tous les ans. Donc, une de leurs batailles était d'alléger les impôts de la part qui était réservée au financement des interruptions volontaires de grossesse. Donc, ils sont intervenus très violemment dans les centres d'IVG, en cassant le matériel, en s'enchaînant aux tables, etc. Ça, c'était Clairefond, voilà, les années 80, entre 80 et 90. Et puis, il y a eu des procès. Véronique Neyertz, qui était à l'époque secrétaire d'État, a fait voter une loi sur l'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Donc on avait des bouts, on avait la loi Neuwirth sur la contraception, on avait la loi Veil sur l'avortement, on avait la loi Neuwirth sur l'entrave à l'avortement, on avait des textes sur l'éducation sexuelle, on avait une législation très disparate sur tout ce qui concerne ce droit fondamental des femmes à la libre disposition de leur corps. Et un des éléments positifs de la réforme 2001, qu'il a fallu quand même batailler pour obtenir, quand même, a été, je pense...
Ça a failli ne pas passer, en tout cas.
Voilà, ça a failli pas passer. Il a fallu qu'on se mobilise en plein été parce que ça a été limite. Nous, ce qu'on voulait, c'est la dépénalisation de l'avortement, On voulait l'égalité de toutes les femmes devant l'avortement. On voulait l'extension des conditions. Et ce qui s'est passé, c'est que cette réforme, je pense, elle a été menée par des femmes, puisque c'était la commission parlementaire qui a mené ça quand même très, très fort. On a obtenu une réforme qui a inscrit dans la loi la légitimité des femmes à la disposition de leur corps. C'est-à-dire que on a dépénalisé donc l'avortement avec le retrait du code pénal de deux articles, puisque dans le code pénal, il ne reste que l'article qui dit qu'une femme ne doit pas subir un avortement sans son consentement. Il y a une chose aussi qui est très importante dans notre loi, je crois qu'en France, on est les seuls à avoir ça en Europe, c'est que c'est à la femme elle-même...
Signature de son volontaire.
Voilà, c'est la femme elle-même et seule qui peut... décider d'interrompre une grossesse qu'elle ne souhaite pas mener pour la raison voilà. Ou les raisons qui l'amènent à décider. Mais c'est très très important parce que je pense qu'on est le seul
pays.
C'est
le seul pays où d'ailleurs même la dénomination de la loi le dit bien, ouais. Interruption volontaire de grossesse. Et donc on considère que ça relève de la conscience de la personne. Ce qui me paraît, dans un état de droit, ça devrait quand même être normal. Hein, mais il faut croire que ça gêne beaucoup de monde parce que c'est difficile d'abord de l'obtenir, on s'est battu, mais en plus de la faire vivre, cette loi. Parce que ce que dit Martine est vrai pour la bataille pour la loi de 2001, n'empêche qu'il y a le problème des décrets d'application. Hein, parce que la loi est votée, mais vous savez, il faut passer par des décrets d'application. Et ces décrets d'application, ils sont toujours bloqués.
Ce qui était intéressant dans la loi... c'est que donc dépénalisation, une chose aussi que peu de gens savent, oui. Mais dans la dépénalisation, il y a aussi le fait qu'à partir de juillet 2001, donc ça ne fait pas longtemps, oui. On est en droit, c'est-à-dire que c'est légal quand on fait de l'information sur la contraception et l'avortement.
Alors qu'avant, c'était illégal.
Illégal. Illégal, et que la seule information qui pouvait être faite, ça a été Monsieur Évin qui a permis qu'on fasse de l'information sur le préservatif au moment de la campagne, des campagnes de prévention sur le sida. Donc, ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'était l'allongement du délai, puisqu'on sait aujourd'hui... Alors, nous n'étions pas sur cette position-là. On est maintenant à 12 semaines de grossesse pour avorter. Or, c'est le délai moyen en Europe. Ce que l'on constate, c'est que si les femmes sont hors... Les femmes s'alertent tôt, en général. Quand une femme est enceinte, elle a un retard de règles, et un retard de règles, elle s'alerte très tôt. Après, c'est tout le processus de décision qui est en général, à part quelques-unes, je ne vais pas dire que c'est la totalité, mais en général, dans la grande majorité, les femmes qui s'alertent tôt, tout de suite savent si elles poursuivent ou interrompent une grossesse qui n'est pas prévue. Hein, je ne parle pas des grossesses prévues ou voulues, mais dans le cas des grossesses non prévues, en général, elles savent tout de suite ce qu'elles veulent faire. Alors après, c'est d'y arriver, parce que il y a tout le circuit d'être informé d'où ça se passe, de comment ça se passe. En plus, ça dépend du délai, etc. Donc nous, on disait, à l'époque, avant la loi, à peu près 70% des femmes auraient été prises en charge en France si les délais avaient été jusqu'à 16-17 semaines. Hein ? Il restait quand même 30%, 20 à 30% des femmes. Hein. Il faut savoir qu'en France, on peut interrompre une grossesse à n'importe quel terme, jusqu'au bout. Ça s'appelle l'interruption médicale de grossesse. Alors l'interruption médicale de grossesse, la réforme 2001, il faudrait l'étudier en détail, mais elle ouvre vraiment une dynamique sur laquelle on pouvait s'appuyer pour faire progresser le droit des femmes. Le problème, c'est que ce gouvernement n'a pas été réélu. Mais en tout cas, c'est le gouvernement Chirac qui a pris le relais, avec un gouvernement qui est... parce qu'il faut dire que là-dedans, cette réforme, l'enjeu, il est quand même quelle place on veut donner aux femmes. Comment on considère les femmes. Donc nous avons la naïveté, mais la persévérance, de considérer que les femmes sont des êtres à part entière, qu'ils sont capables de penser, de décider et d'avoir la même place que les hommes. En tout cas, on ne veut pas être des hommes, mais on veut avoir les mêmes droits. C'est-à-dire, on veut être autonome. Ce qui n'est pas la réalité. Les femmes ne sont pas autonomes. Ça, c'est notre analyse féministe. Donc, je pense que sur Nantes, l'ensemble des mouvements, des groupes féministes est d'accord sur cette analyse. nous considérons que les femmes sont toujours dans un rapport de domination par rapport aux hommes. Donc, il ne faut pas non plus faire dire aux mots ce qu'ils ne disent pas, c'est-à-dire que on n'est pas contre les méchants garçons qui font quand même la vaisselle et s'occupent des enfants. Mais globalement, quand on voit dans le monde entier où sont situées les femmes économiquement, socialement, dans la famille, elles sont en général subordonnées aux hommes. Et dans la loi, c'est la même chose. Et pour leur corps, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas, en tout cas, il y a une lutte féroce pour ne pas donner aux femmes l'entière disposition de leur corps. Donc ça, c'est les projets sur la famille. Hein, c'est dit comme ça, on pourrait faire des stages entiers pour montrer ça.
Oui, parce que c'est d'autant plus insidieux qu'en fait, le discours officiel, le discours, on va dire, on ne dit plus comme on disait il y a 30 ans ou 40 ans, les femmes sont inférieures aux hommes. Ça, c'est fini, c'est plus audible. Donc tout le monde dit « je suis pour l'égalité entre femmes et hommes ». Sauf que ça, c'est le discours officiel, c'est la devanture. Mais il n'y a pas de vraie politique générale qui intègre l'égalité femmes-hommes dans tous les domaines. C'est-à-dire, comme disait l'égalité des droits pour pouvoir conduire sa vie, hein, en toute connaissance de cause, en toute responsabilité. Et on sait que la maîtrise de sa fécondité, c'est central dans l'accès à la liberté de choix, hein, dans sa vie. Moi, j'ai envie de dire que, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis là, Martine, sur l'histoire de la loi. Comment on a obtenu par petits bouts des choses? Je dirais que c'est exactement la même chose sur les violences. Hein, les violences, on a des choses par petits bouts. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Martine, parce que bon, ça fait un certain temps qu'on milite. On ne veut pas faire les vieilles militantes, mais quand même. À Nantes, on aurait voulu, par exemple, une loi sur les violences conjugales. Bon, ben, ça, on n'a pas de loi. Il y a un petit bout qui a été intégré dans le code pénal pour dire que c'est une circonstance aggravante quand la violence s'inscrit dans le couple. Mais moyennant quoi, on va prendre. Il y a aussi une autre chose qu'on demandait, c'est pour dire que ça forme un tout. Hein, c'est pour expliquer ce que je dis là, je ne veux pas sortir du sujet sur l'IVG, mais je trouve que ça procède, on a toujours ce problème-là. Il n'y a pas de vraie cohérence, il n'y a pas de vraie volonté globale. Une femme qui est victime de violence, eh bien, elle est obligée de quitter son domicile. Bon, ça fait très longtemps qu'on demandait demandait la possibilité que ce qu'elle puisse garder, surtout quand elle est avec des enfants, qu'elle puisse garder, rester à domicile, et que le fauteur de violence, ce soit lui qui s'en aille. Bon, alors, on va prendre une petite mesure, encore, là, c'est en discussion, sur ce cas-là. Mais on n'aura pas une loi, vous voyez, qui rende visible les choses. Et je me demande si ça n'a pas un effet très pervers, parce que les gens ne savent plus quels sont exactement les droits qui ont été acquis par les femmes. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on a tout acquis. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'il n'y a pas de blocage, ni institutionnel, ni dans les mentalités. Or, c'est faux. Les femmes elles-mêmes ne s'en rendent compte que quand elles se heurtent concrètement à la question. Si vous ajoutez à ça qu'il n'y a pas vraiment d'éducation de fait, hein, enfin, bon, je suis bien placée pour le dire, je vous assure, qu'il n'y a pas. D'abord, il y aurait la formation des enseignants, pour commencer, ben quand même, hein, d'intégrer l'égalité filles-garçons dans la formation, ça me semble, c'est mis sur le papier, mais concrètement, ce n'est pas fait, à part quelques individualités, mais bon. Et l'éducation à la sexualité, pareil, si bien que ça donne des jeunes qui ne savent même pas exactement ce que c'est que l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui ne savent pas exactement non plus tous les moyens, ce qui concerne les moyens contraceptifs, etc. Hein, bon, vous savez qu'il y a eu l'histoire de la pilule du lendemain, par exemple. Ça, c'était très significatif quand même. C'était incroyable que les infirmières puissent pas, enfin maintenant c'est possible, mais ne pouvaient pas, dans l'institution scolaire, distribuer cette pilule du lendemain. Et il y a toujours des gens qui se battent contre.
Bien sûr, parce que normalement, c'est réservé aux parents.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en France, quand même, on a... les jeunes ont une majorité sexuelle à 15 ans, mais ils ne sont pas majeurs. Là, par exemple, si je reviens sur l'IVG, une des mesures qui a été prise par la réforme 2001, c'est de donner aux mineurs la possibilité, lorsqu'elles voulaient avorter et qu'il n'était pas question d'en parler aux parents, parce que quand on commence à parler d'avortement dans la famille, ben, ça veut dire qu'on dit à ses parents qu'on est un être sexué, qui a des relations sexuelles, et voilà. Et donc, on a donné la possibilité aux mineurs de pouvoir avorter sans en parler aux parents, en ayant le recours à un accompagnant, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se substitue absolument pas aux parents, ni à l'autorité parentale, mais qui accompagne la mineure. Restait pour l'appliquer, évidemment, la prise en charge, puisque nous, on demandait que les mineurs aient une carte sanitaire, c'est-à-dire que les mineurs aient une carte qui leur permette d'assumer leur santé. Et ça a été organisé pour que c'est l'État qui prend en charge financièrement les frais d'avortement pour une mineure qui a recours à un adulte accompagnant. Mais ça a été toute une histoire pour le mettre en place. Ça, c'est la première chose. La contraception, elle est gratuite dans les centres de planification pour les mineurs. Mesure très intéressante a été que ce soit étendu à toutes les structures médicales. C'est-à-dire que normalement, une mineure qui ne veut pas parler à ses parents de sa sexualité peut aller voir un médecin qui doit être à même de lui donner, prescrire une contraception qu'elle peut avoir donc dans les pharmacies. Sauf que pour l'instant, on attend toujours le décret d'application qui assure le financement. Alors déjà, on a des résistances morales par rapport à ça, mais c'est évidemment renforcé par les difficultés d'application, parce que si, évidemment, ça va être le prétexte qui va être donné, hein, si on peut pas, si les gens n'ont pas leur argent, ils vont pas le faire. Donc il y a des tas de choses comme ça. L'avortement peut être pratiqué en cabinet de ville jusqu'à 5 semaines de grossesse par la méthode médicamenteuse. Ça, c'est inscrit dans la loi. Il y a les recommandations, les protocoles. Il y a même une volonté des médecins, puisque nous, par ailleurs, on a fait des forums avec les professionnels qui sont tout à fait d'accord et prêts à prendre en charge cette pratique-là. On attend toujours le décret. Donc, c'est pour montrer que la dynamique de reconnaissance de ce droit fondamental des femmes, parce que ce que dit Maryse est très vrai, c'est quand même dans l'appropriation du corps des femmes que ça se joue, cette inégalité. Il faudrait faire témoigner des anciennes qui sont là, qui ont connu l'accès à la contraception. Pour elles, c'était extraordinaire parce que c'était la fin des maternités fatales à tous les rapports sexuels. Donc, c'était une possibilité de vivre sa sexualité et pas de redouter les rapports sexuels comme aboutissant à une maternité et donc à un enfant supplémentaire. Il faudrait réentendre ces témoignages-là, redonner cette histoire-là aux jeunes pour savoir d'où vient ces droits. Et c'est il n'y a pas longtemps, hein, puisqu'il y a 40 ans. Quoi.
La contraception, en France, elle a été autorisée, et les décrets pas les décrets d'application. Parce que c'est extraordinaire, à chaque fois qu'il y a les droits des femmes, on vote une loi et il faut attendre plusieurs années pour avoir les décrets d'application. La loi Neuwirth autorisant la contraception, l'usage de la contraception, c'est 1967. Alors vous allez me dire, ça, c'est vieux. Ben, 67, c'est quand même pas vieux dans toute l'histoire de la France. Hein. 67 et les décrets d'application, 72, 73. Alors après, attendez, parce qu'il y a les décrets d'application, mais après, ça se diffuse. Il faut une éducation, il faut que les gens soient au courant, il faut que les femmes aussi puissent prendre conscience quels sont les choix de contraceptifs qui soient les plus adaptés à elles-mêmes, à leur corps, etc. Et ce qui pose vraiment problème, c'est qu'il n'y a pas de véritable information et de véritable sensibilisation. On demande depuis je ne sais combien d'années qu'il y ait des campagnes régulières sur la contraception. Parce que moi, ça me fait bien rigoler. On dit qu'il y a des grossesses, je ne sais plus combien sont, de grossesses d'adolescentes, hein, des grossesses subies, on va dire. Ce public de jeunes filles qui se retrouvent enceintes alors qu'elles ne l'ont pas désiré, eh bien, ça, c'est le public favori des mouvements anti-avortement. Parce qu'ils veulent, souvent, ce sont des filles qui sont en détresse, qui sont isolées, qui ont un rapport à leur corps difficile. Souvent, ce sont, en plus, attendez, ça peut être, c'est souvent des rapports sexuels qui ont été imposés, voire des viols. Je voudrais quand même rappeler le cas de cette jeune fille dans un établissement scolaire, vous savez, qui a quand même été mise en examen pour meurtre parce que c'est dire la détresse qu'avait cette fille. Hein. Elle a accouché et elle a tué son môme, vous savez, qui a été trouvé, enfin le bébé, qui a été trouvé dans les toilettes d'un établissement scolaire. Et elle est mise en examen pour infanticide. Mais moi, je trouve ça qu'en France, en 2003, hein, c'était en novembre, hein, qu'on ose faire ça, parce que c'est une gamine qu'en collège, qui a donc, qui s'est, vous imaginez ce que ça représente comme détresse totale. Eh bien, cette gamine, par la logique de la loi, si vous voulez, qu'est-ce qu'on en fait d'elle? On la met en examen pour, d'ailleurs je me demande si elle n'est pas en prison, pour un infanticide. Mmh. Ça veut dire que l'information ne passe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie éducation à la sexualité. Le fait aussi de se protéger, le fait de se dire aussi « mon corps m'appartient ». Ça, c'était un mot d'ordre, « mon corps m'appartient ». Il y a tout de suite le mouvement féministe hein, des années 70 à lancer hein, « un enfant si je veux, quand je veux hein, ». Ça, c'était le beau mot d'ordre du planning qui est toujours d'actualité. Moi, je trouve ça grave. Je trouve que c'est grave. On nous fait des grands discours sur l'égalité entre hommes et femmes. Or, on ne donne pas les moyens éducatifs et les moyens aussi institutionnels pour que ce droit-là puisse vraiment exister. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est que les jeunes n'en sont pas conscients, parce que ça concerne aussi les garçons, que finalement, ces droits-là, qui sont des droits essentiels, sont fragiles. Et ils sont, je dirais, fragilisés même. Parce qu'il y a toujours des courants qui sont contre l'avortement, mais derrière aussi, en fait, qu'est-ce que ces femmes-là, c'est contre la décision en fait personnelle d'une femme qui est derrière. C'est ça l'idée. Hein.
C'est un projet de société.
Et c'est aussi une vision de société.
Les femmes doivent être. Je veux dire, là aussi, on peut pas s'empêcher de repenser à des projets quand même type Pétain. Où la mère était au foyer, était mère, France, était. Hein. Eh ben oui, et donc ça, c'est absolument contraire à l'acquisition de l'égalité. C'est pas du tout bon. Donc là-dessus, on est.
Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, on peut plus tenir un discours du genre les mères à la maison.
Non, hein. On ne peut pas caricaturalement.
On peut plus. Donc il y a un double discours. Il y a un discours officiel sur l'égalité, mais il n'y a pas de vraie politique. Concernant l'égalité. Et pour revenir à l'avortement, si l'IVG était un droit, moi je considère que ça devrait être un droit imprescriptible, qui devrait vraiment être considéré, pas simplement, vous voyez, c'est une loi, mais que ça devrait être un droit fondamental. Et pour que ce soit un droit fondamental, ouais, hein, ce que dit le planning, c'est que ça doit être un droit constitutionnel. Et ça, c'est la prochaine bagarre, parce que tant que ce ne sera pas un droit constitutionnel, il pourra toujours être mis en cause. Quand on dit un droit constitutionnel, c'est comme quand on dit que la laïcité, c'est un droit constitutionnel. Hein, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est au fondement, on présente ça comme un... Mmh. Et là, si ça devenait un droit constitutionnel, ça ne réglerait pas tout, mais ça voudrait dire qu'il y a une volonté de considérer que la liberté est fondamentale, que les femmes ont droit, hein, et que les normes traduisent ce droit fondamental à disposer de son corps, dans le sens où son corps... C'est ce qui nous appartient quand même au plus intime. D'autant que c'est par le corps que les femmes se sont trouvées infériorisées et sous la forme d'une domination. Alors quand on parle d'une domination masculine, il ne faut pas y mettre de morale. Mais souvent on confond. C'est pas les hommes qui sont méchants et les femmes qui sont gentilles. Parce qu'à peu près dans la population, il y a autant de femmes méchantes que d'hommes méchants. Hein, il y a autant de femmes qui sont très désagréables que d'hommes très désagréables. C'est pas à ce niveau-là. C'est structurel. Une femme qui peut pas décider du nombre de si elle veut avoir des enfants ou pas. Une femme qui par exemple subit un viol, parce que il y a les violences aussi. Tout ça, ça passe aussi. Les violences physiques, sexuelles et psychologiques. On sait l'importance des violences en France qui touchent les femmes et on sait aussi que c'est dans tous les milieux. Ça touche pas simplement, parce qu'on a une représentation totalement fausse, où on dit les viols collectifs, ça c'est vrai que ça existe dans les banlieues, mais pas que dans les banlieues. Et on sait aussi que ces violences-là, c'est dans l'entourage. Alors bien évidemment, ça ne mobilise pas M. Sarkozy, hein, parce que ça ne fait pas des chiffres, parce que la plupart des plaintes ne sont pas enregistrées, mais n'empêche que s'il y a bien une insécurité pour les femmes, c'est bien celle-là.
Hein. De toute façon, concrètement, c'est la mise sous terreur.
Voilà.
Parce qu'une femme qui est victime de violence, la violence, elle marche parce que c'est la peur, c'est la terreur. Et à juste raison, hein, parce que les menaces sont quand même physiques et les blessures sont réelles. C'est pas dans le fantasme que ça se passe, les violences. C'est pour ça que cet amendement Garot, et je comprends bien que ce monsieur Garot soit déterminé à le pousser, parce que je pense que c'est tout ça qu'il y a derrière l'amendement Garot. C'est pas simplement le fait de protéger les femmes enceintes. Si on voulait protéger les femmes enceintes, eh ben, y a des politiques d'accompagnement aux femmes en difficulté, par exemple, les femmes enceintes en difficulté. On manque énormément de moyens pour accompagner ces femmes-là. Donc il y a tout à fait, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour protéger les femmes enceintes en difficulté, par exemple. Hein, donc il y a des tas de choses à faire. Si vraiment il fallait protéger les femmes enceintes, il faut se pencher alors sur les femmes enceintes et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Là, il ne s'agit pas de ça. Là, il s'agit du fait de donner un statut à un fœtus qui n'est pas une personne pour l'opposer à la femme qui le porterait. Parce qu'en fait, on arriverait à une opposition entre le droit du fœtus, que ce ne serait, enfin, serait pas lui en plus qui représenterait ce droit-là. Ça veut dire que serait habilité à représenter ce fœtus personne potentielle, eh ben les associations anti-IVG qui se portent partie civile et qui disent nous on défend la vie et on revendique que il y a eu homicide sur cette personne potentielle. Et qui va être opposé à cette personne potentielle? La personne réelle qui est la femme. Et là, nous, on trouve que ça, c'est très dangereux. Très dangereux parce que ça veut dire qu'une femme ne pourra plus prendre de décision. Alors déjà, on a beaucoup médicalisé, c'est-à-dire que la contraception est hyper médicalisée, elle pourrait l'être moins. L'avortement est très médicalisé, pourrait l'être moins. C'est-à-dire que j'ai encore pas été convaincue. La première demande, quand une femme donc veut un avortement, la première demande, elle doit le faire à un médecin. Or ça, c'est absolument, ça fait perdre beaucoup de temps parce que il vaudrait mieux qu'elle aille dans un centre où on lui donne l'information, ou alors directement dans le centre d'IVG. Mais bon, on a aussi un retard énorme, ce qui fait que on est en train, je sais pas ce que tu as pensé de l'entretien, parce que dans la loi, on a donc été très, comment dire, très contesté. Parce que nous avons demandé, nous avons argumenté et on a obtenu que l'entretien qui était avant préalable obligatoire, avant une IVG, les femmes majeures, comme mineures d'ailleurs, avant la réforme 2001, devaient subir un entretien social obligatoire avec un papier, etc. Et nous, on disait que cet entretien n'avait qu'un rôle dissuasif. Il n'avait même pas un rôle d'information. Nous, on en faisait des entretiens d'information. Il avait un rôle dissuasif et que une femme qui avait décidé d'interrompre une grossesse, elle l'interromprait, bon, voire infanticide par n'importe quel moyen. Donc, que le problème n'était pas là, que le problème était d'informer la population et de l'informer de façon qualitative, régulière. Et puis, de mettre à disposition des femmes qui le souhaitaient, parce qu'on peut, à un moment donné, vouloir arriver dans un lieu et puis poser son histoire, donc avoir des lieux d'écoute, de parole, parce que, bah oui, dans la vie, il y a des tas de choses qui sont pas forcément faciles à gérer, et on a besoin, à des moments, d'avoir ces lieux-là pour le poser, pour redonner un sens à sa vie, pour redire, bon, voilà, ce qui m'arrive là, voilà comment ça s'est passé, voilà, je ne veux pas poursuivre cette grossesse, par exemple, donc pourquoi? Bon, il y en a pour qui c'est clair tout de suite, il y en a d'autres qui se disent, bah tiens, j'avais pas prévu cette grossesse, qu'est-ce que je fais? Je poursuis pas, voilà, ça se passe comme ça aussi. Il y a des femmes pour qui ça se passe très bien, pas besoin d'entretien, il y en a d'autres qui auraient besoin de ces entretiens. Donc à celles-là, il faut les proposer, il faut même... Et puis ça peut être ça, mais ça peut être aussi des entretiens avec des assistantes sociales. Et là, alors là, on a... Là, non.
Hein, là, il y a assez...
Pas d'écoute.
Voilà. Donc, c'est ça qu'on pose un peu comme une hypocrisie, quoi. C'est-à-dire que, bon, et l'amendement Garot, pour nous, il remet sur le tapis tout ça.
Acte 4 et final, dans la nuit du 20 au 21 janvier, le Sénat supprime l'amendement Garot à 312 voix, mais sûrement pas de quoi baisser la garde. Le 6 février prochain, le planning familial de Nantes organisera donc un colloque sur le droit de choisir, un colloque qui se tiendra à l'UFM de Nantes.